Il est quelle heure ?
Midi.
C'est midi. Midi à ta porte.
Un coup d'œil sur la vallée.
Un clin d'œil à l'actualité.
La vie au coin de la rue.
Le quotidien local et rural saisi sur le vif.
Ou mijoté à petit feu.
Ça pétille.
Ça grésille.
Chaque jeudi midi.
Au reportage.
Reportage.
Magazine. Interview.
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 Ça parle de tout.
Ça parle de vous.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Midi à sa porte. Votre émission hebdomadaire d'actualité locale sur Radio Saint-Fé. Aujourd'hui, on va parler de jeunesse et de ses perspectives. Ce sera en deuxième partie d'émission. Mais on va aussi parler d'art et de voyage avec une exposition intitulée « L'inspire du voyage ». Dialogue entre images et sculptures, une exposition qui s'installe à l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Roche-sur-Grane, c'est dans le Vieux Village, entre le 4 et le 6 avril. C'est donc ce week-end. L'exposition fait dialoguer les textes de Dominique Errante, les sculptures de Sylvie Labou et les photographies de voyage de Joël Perrault. Joël et Sylvie qu'on accueille aujourd'hui en studio, bonjour et merci à tous les deux d'être là.
Ben, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour.
Bien, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là.
L'exposition sera aussi l'occasion de présenter un livre qui s'appelle « Un voyage en Orient », sous-titre « Portrait d'une grande famille », avec vos photos, Joël, vos photos en couleur, et les textes donc de Dominique Errante. En deuxième partie d'émission, donc je vous l'annonçais, c'est l'équipe d'organisation de la Fabrique à Déclic, festival pour la jeunesse qui s'installe à Créactive du 7 au 9 avril. Cette équipe viendra nous parler de tout ce programme prévu pour ces 3 jours. Voilà, mais on va commencer donc par cette exposition avec nos deux invités. Joël Perrault, vous êtes voyageur et vous êtes photographe. Sylvie Labou, vous êtes sculptrice, mais la sculpture n'est qu'une des facettes de votre pratique artistique. Vous naviguez de la danse au modelage en passant par la poésie. Vous êtes également intervenante en art-thérapie. Sur le versant sculpture, vous travaillez l'argile et le bois, c'est ça ?
Tout à fait. Alors en fait, ça s'appelle du grès parce que c'est une terre qui est imprégnée d'une terre est déjà cuite pour donner plus de solidité et du grain. Et donc, si le grain me permet de faire des pièces plus fines, mais en même temps avec une garantie de solidité, je vais écraser les grains pour polir la terre avant la cuisson.
Alors, vous avez réfléchi cette exposition qui a lieu à la Roche-sur-Grane ce week-end en faisant correspondre, en faisant échanger vos deux pratiques, donc celle de la photographie de voyage pour vous, Joël, et donc celle de la sculpture, Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez choisi les œuvres à exposer et surtout les correspondances avec la photographie, Joël ?
Eh bien, déjà, lors de notre rencontre à la Roche-sur-Grane, Joël m'a parlé de son voyage, la route de la soie, et ça a fait écho parce que quand j'étais art-thérapeute, mon entreprise s'appelait Au fil de soie. Et je raconte que lorsque je crée, c'est comme un fil qui se déroule de l'intériorité vers l'extériorité pour donner forme. Donc là, il y avait déjà un bel écho, on était sur la même lignée. Et quand on a regardé, on a croisé nos regards sur les photos, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des sculptures autour de la spiritualité, autour du féminin, il y avait le monde de l'eau, hein, le Gange, ça m'inspire beaucoup, le Tibet, la gravure, la calligraphie. Il y avait vraiment des thèmes communs et on s'est mis dans le projet avec beaucoup d'enthousiasme.
Donc vous présentez des sculptures, est-ce que vous pouvez nous les décrire pour les auditeurs, auditrices ? Est-ce que vous pourriez au moins en choisir quelques-unes pour les décrire ?
Alors, la première fois où j'ai exposé, quand je suis arrivée dans la Drôme, enfin, j'avais intitulé un livre qui s'appelle « La voix de la Terre » et le thème c'était le vivant, vraiment notre connexion au monde de la Terre et à cette merveilleuse Drôme qui est pleine de collines, de vallons, de minérales, de végétales, du monde de l'eau. Donc, c'était évident. Et la Roche-sur-Grane, c'est quand même un petit village perché où le minéral est très important. L'église, il y a des fresques qui ont été restaurées, des fresques à la chaux. Donc ça veut dire que c'est travailler à la main, ça correspond vraiment à mon travail, ces ocres que je patine. Donc il y a quelques pièces qui sont émaillées, mais c'est surtout des ocres prélevées dans la nature ou pas, mais naturelles que je vais écraser, polir, patiner, rajouter de la cire, tout est naturel et au plus proche du travail manuel, le travail ancestral. Nous avons choisi ensemble les sculptures qui étaient, ce que je disais là, dans cette parure du féminin, dans ce travail à la terre. Et vous verrez dans les photographies de Joël, on raconte l'histoire des habitants de la terre. Et ça, c'était juste aussi. Et les sculptures, le thème aussi, c'est donc l'espace et le temps. C'est comme un voyage intérieur pour moi. Donc, on était aussi raccord, comme vous pourrez dire, sur ce voyage de l'intériorité vers l'extériorité. Sauf que moi, je reste dans mon atelier et que je médite ou que j'écoute des musiques, des mantras. Enfin, c'est ce qui m'inspire, c'est d'aller puiser vraiment en Orient. Donc, et ça aussi.
Joël, pour vous, même question. Comment vous avez choisi les photographies qui répondent au travail de Sylvie ?
Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'en fait quand on s'est rencontré avec Sylvie, le livre avait déjà, la maquette du livre était déjà finie avec Dominique Errante. Donc en fait quand on s'est rencontré avec Sylvie, elle vous a expliqué sa démarche et on a eu envie d'en parler ensemble, donc elle a découvert le livre et l'écho s'est fait directement à partir de la maquette du livre. Donc Sylvie, elle n'a pas du tout participé au choix des photos quoi en fait.
Toutes les photos du livre sont exposées dans l'église ?
Non. Alors, dans le livre, il y a environ 70 photos. Et dans l'église, il y en aura peut-être la moitié, quoi.
Alors, parlons de ce livre. Donc, il y a une rencontre donc, avec Dominique Errante, qui lui-même aussi est photographe, qui est écrivain, qui est poète. Est-ce que vous voulez parler de Dominique Errante, nous le présenter ? C'est un personnage assez illustre.
Alors, Dominique Errante, illustre peut-être pas, mais enfin, c'est un personnage qui est quand même assez, qui est connu sur la scène photographique drômoise. Puisque, effectivement, c'est son métier depuis une quarantaine d'années. Il a publié pas mal de livres avec ses textes poétiques, ou poésie en prose, ses photos. Il a longtemps été photographe pour Michel Rivasi. Il a travaillé sur le magazine de Michel Rivasi, donc il était en lien avec des milieux écologiques depuis longue date. Il a été lauréat d'un concours photographique auprès du ministère de l'Environnement il y a déjà pas mal d'années. Mais donc c'est quelqu'un qui a une grande expérience de la photo. Et la rencontre était un peu fortuite, autour d'abord de questions sur du matériel photographique. Je lui ai montré une carte mémoire en disant, j'aime bien faire ces photos. Est-ce que tu as un appareil à me conseiller qui soit facile à utiliser, on va dire, en photo de rue ? Et les photos que je lui ai montrées lui ont plu. Il a voulu en voir d'autres, encore d'autres, encore d'autres. Et finalement, je me suis retrouvé à exhumer des vieilles boîtes de diapositives qui avaient plusieurs décennies d'âge sur les premiers voyages que j'avais faits. Et qui était vraiment relégué au fond d'un placard. Et de fil en aiguille, il m'a dit non, qu'il fallait absolument faire quelque chose de toutes ces photos, qu'elles avaient quelque chose qui pouvait être raisonné chez les gens, on va dire, pour faire simple.
Ce qui est intéressant, c'est que lui, le photographe, ce sont ses textes qui sont dans ce livre. Ce ne sont que vos photographies.
Au début, quand il a vu les photos, il y a des textes qui lui sont venus à l'esprit. Il a trouvé cette dimension spirituelle qu'évoquait Sylvie dans les photos. Et il a eu envie, effectivement, comme c'est un homme qui est nourri quand même aux spiritualités de l'Orient, l'horoscope, les philosophies hindouistes, orientalistes, le taoïsme. Ça l'a vraiment inspiré. Il a trouvé tout de suite le lien. Et il a un petit peu poussé pour que ce projet se concrétise. Et on a abouti effectivement à une sélection. Alors sélectionner 70 photos quand on en a plusieurs milliers faites depuis des décennies, c'est assez compliqué. C'est subjectif. Moi, ce qui me paraît important dans le choix des photos, c'est que si quelqu'un va ouvrir le livre, va le feuilleter, l'idée, c'est pas de chercher les photos touristiques. La belle photo, bien léchée, qui va évoquer un site, un lieu, un endroit. C'est plus des photos qui vont illustrer des temps de rencontre. Donc le fait de dire cette photo, oui, bon, c'est l'Inde, c'est le Tibet, c'est le Vietnam, c'est pas ça le plus important, même si ça compte. Pour moi, ce qui compte, c'est que ces photos vont illustrer un moment que j'ai pu vivre quand je voyageais. Alors moi, j'essaye de voyager lentement, prendre mon temps, de rencontrer les gens. L'appareil photo, effectivement, pour moi, c'est un trait d'union avec les gens. C'est plus un prétexte à la rencontre. Effectivement, il y a certaines cultures où l'appareil photo crée cette barrière et c'est inévitable. C'est pour ça qu'en feuilletant le livre, on trouvera qu'il y a peut-être plus de portraits masculins que féminins, mais ça, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, il y a énormément de situations où, en fait, quand on prend un peu le temps, ben la photo devient un temps fort de la rencontre d'un voyageur, quelqu'un qui est itinérant, qui passe, qui ne va pas s'arrêter. Et puis finalement, ben, la photo permet de s'arrêter et de créer ce petit lien avec des inconnus. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, en faisant la sélection de toutes ces photos, c'est de se dire qu'à travers ce voyage qui se fait d'ouest en est, en fait, on fait aussi un voyage dans la vie. On le voit quand on a des photos qui vont quasiment de la naissance. Et là, on voit la dame en couverture, hein, qui est dans son train en Inde, ben, jusqu'à des scènes de crémation. Hein, donc, on est ce voyage de la vie. Et puis, ben, en feuillant le livre, on voit que y a des groupes, il y a des enfants qui jouent, des enfants qui travaillent, des moignons, la foi, le mariage, travail des adolescents, une vie joyeuse, une vie plus dure. Hein.
Pour nos auditeurs et auditrices, peut-être on peut dire que les photos s'échelonnent des années 80. Vous avez des premières photos, des clichés des années 80, ouais, jusqu'à nos jours.
86, je crois, les plus anciennes, et 2024, les plus récentes.
Ouais. Et que vous parliez d'un itinéraire d'ouest en est, c'est effectivement, on part d'Europe, donc avec des détours par la Roumanie, la Turquie, et on va jusqu'aux confins de l'Asie du Sud-Est, jusqu'en Indonésie, aux Philippines.
Voilà, c'est ça, ouais.
Passant par des grandes stations en Inde, on a l'impression que vous êtes resté longtemps en Inde.
Alors, l'Inde, oui, c'est quand même mon...
C'est un continent.
Ma destination de prédilection, on va dire. C'était mon premier voyage, hein, quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis, voilà, je ne me suis jamais, lassé d'aller en Inde. Je suis tombé en passion pour l'Inde, je ne suis pas le seul. Hein. Et ouais, j'y suis retourné assez souvent, j'y ai passé assez longtemps.
Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'appareil photo comme prétexte à la rencontre. Ça me parle beaucoup. Parce que moi, j'ai un peu la même sensation avec le micro. Quand on est avec un micro pour faire un reportage quelque part, quel que soit l'événement ou l'endroit, ça peut faire peur aux gens, ça peut être intrusif à un moment. Et puis, au final, quand le lien est fait, effectivement, on a de très belles rencontres alors, sonores, qu'on garde en sonore. Mmh. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire.
Oui, c'est étonnant parce qu'en fait, on a l'impression que l'appareil photo va bloquer, mais en fait, juste en prenant un peu de temps, en parlant un peu avec les gens, en souriant, c'est une petite mise en scène. Mais après, les gens le demandent. Même bon, l'Inde, c'est vrai que les gens adorent la photo, mais dans le livre, il y a une photo, effectivement, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas ne se rendra pas compte que c'est une photo qui n'est pas fréquente, mais c'est la jeune étudiante en Irak. L'Irak, culture arabe, on ne prend pas de photos, quoi, des femmes. Ben c'est elle, j'étais là, elle était avec son groupe d'amis dans une ambiance de remise de diplôme sur le site de Babylone. Et puis on s'est croisés, on s'est souri avec ses amis, elles ont dû rigoler un petit peu en me voyant passer avec l'appareil, je me suis arrêté. Et ben c'est elle qui a demandé à ce que je la photographie. Donc c'est pour dire, voilà, à ce niveau-là, l'appareil photo, mais ça crée un lien quand même, c'est sympa quoi.
Bien sûr, est-ce qu'il y a une autre photo que vous avez choisie pour raisonner avec les sculptures de Sylvie, dont vous voudriez nous parler, que vous voudriez nous décrire particulièrement dans ce livre et cette expo, Un voyage en Orient.
Il y a une photo qui, je continue à parler alors, qui est peut-être l'une des plus significatives de ce travail en commun. C'est celle qu'on a intitulée en fait Le Calligraphe, parce que c'est le titre d'une sculpture de Sylvie. Et c'est une photo qui a été prise donc dans les années 90 au Tibet. Et j'étais une ville qui s'appelle Shigatse. J'étais parti me faire une promenade à pied autour de la ville, un peu dans les collines. Et ben, j'étais à la rencontre de... Voilà, je tombe de façon tout à fait inattendue sur un homme qui était assis, accroupi devant un rocher. Il avait un clou, un marteau, et puis il était en train de tracer sur cette grande pierre, hein, qui est plus haute que lui, des mantras. Donc il traçait le Om Mani Padme Hum, qui est le mantra spirituel tibétain. Et il avait pris son clou, puis il avait dessiné des lignes, et tracé donc comme ça, les lettres tibétaines. Toc, 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 tout doucement, c'est vraiment un travail de très longue haleine, qui est un travail très lent, très précis. Un travail en plus qui est fait d'une façon, d'une rusticité qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Juste un clou et puis une vieille masse. Et il était là, quoi. Et effectivement, je trouve que cette photo résonne avec le travail de Sili, parce qu'on a le rocher, le minéral, et puis ben, le mantra, le spirituel. Oui. Et les deux s'articulent dans cette photo. Et oui. Ça fait écho au travail
voilà.
De Sili.
Tout à fait, parce que moi, je vais présenter aussi le livre Les Mûres de Gaïa. Donc Gaïa, c'est la déesse de la Terre. Et effectivement, cette déesse de la terre, elle nous ramène au vivant. Et le vivant, le minéral, fait partie aussi du vivant, le végétal, le vivant. Cette photo, elle fait écho à une sculpture que j'ai nommée calligraphe, parce que j'ai fait de la calligraphie. Je voulais faire les premiers signes sur son corps, les premières traces. Et il y a un Om. Et il y a aussi toute une symbolique de l'écriture japonaise. Et vraiment, quand j'ai écrit, j'avais l'impression que je gravais dans la pierre. Donc, ça fait vraiment écho à cette photo.
Par exemple, il y a aussi la photo des potières. Là aussi, qui est sur... Alors, c'est pareil, c'est un peu étonnant, parce qu'on n'imagine pas... C'est une photo qui a été prise sur les trottoirs New Delhi. Alors, on ne va pas imaginer qu'effectivement, il y a un quartier de potiers à New Delhi. Et donc, il n'est pas le vieux, le New Delhi. Et oui, il y a une rue... des boutiques et des trottoirs où la corporation, quoi, la caste des potiers vend ses productions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des femmes qui vendent, il n'y a pas d'hommes. Donc voilà, alors il y a plein de petites choses. Alors moi j'aime bien parler des photos parce qu'en fait quand on ne sait pas, il y a plein de choses qui vont échapper aux spectateurs, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, les photos, il y a quand même une richesse et qui nous renvoie effectivement à la fois à la culture locale, puis à la fois, effectivement, parce que nous, avec notre regard occidental, ben on a une vision superficielle, et puis après on s'arrête, on discute, on voit. Et c'est ce qui est passionnant dans la photo quand on voyage, quoi.
Est-ce que donc vous allez pouvoir transmettre aux visiteuses et aux visiteurs de cette exposition à La Roche-sur-Grane, donc c'est ce week-end, le 4, 5 et 6 avril, il y a un vernissage le samedi 4 à 18h, c'est ça ?
Tout à fait. Mmh.
Et ça se prolonge jusqu'au lundi soir, 18h, où vous serez là pour expliquer ces...
Ah oui, bien sûr.
Pour accueillir. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce travail de la terre, si ce sont les femmes qui sont potières à New Delhi, c'est intéressant de voir aussi que dans les labours, le travail de la terre, ce sont plutôt des hommes. Et on a fait aussi un parallèle avec les sculptures bois que je réalise. Et c'est sûr que ce travail sur le bois est quelque chose de beaucoup plus fort, d'une maîtrise, alors que la terre, c'est pour moi, c'est beaucoup plus doux, il y a comme un engendrement, un enfantement. Et le travail sur le bois, pour moi, me demande une force plus masculine, je dirais, avec une précision, avec... Et on va faire aussi ce parallèle entre les photographies, des labours, du travail avec les animaux... Les animaux dans les champs et les sculptures bois.
J'avais envie, Joël, de vous poser une question sur le voyage. Est-ce que vous voyagez encore ? Est-ce que vous avez des intentions de voyage bientôt ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quelque chose a changé ces dernières décennies, on va dire, dans la pratique du voyage. Je pense évidemment aux enjeux climatiques, je pense aussi aux tensions internationales ou aux questions décoloniales qui peut-être aussi nécessiteraient de modifier une posture touristique qui, je comprends bien, n'est pas vraiment la vôtre. Mais qu'est-ce qui a changé, en fait, dans votre pratique du voyage ?
Alors, je dirais que ça mériterait une émission entière, ce sujet-là. Pour faire simple, ce qui a comment dire, la mondialisation, alors deux choses, voilà, on va dire ça, pour faire simple. La mondialisation a uniformisé beaucoup des paysages urbains, des modes de vie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va manger la même chose maintenant que vous soyez à Bucarest ou dans un village du Vietnam. Voilà, par exemple. L'autre chose qui a énormément changé, mais qui est vraiment, c'est un autre monde, c'est la massification. C'est-à-dire que maintenant, il y a un tourisme de masse qu'on n'imagine même pas. Nous, on continue à garder un regard occidental, mais on est devenu une minorité. Les touristes, ils sont chinois, ils sont indiens. Et là, ça fait énormément de touristes. Et puis après, la troisième chose qui a énormément changé, quoi, c'est l'Internet et le téléphone mobile. Maintenant, tout se fait à travers des téléphones, des applications. Même commander un rickshaw en Inde va se faire maintenant avec une application, quoi. Donc, c'est un autre monde, quoi, en fait.
Et vous, est-ce que ça vous donne envie de continuer à voyager ?
Alors, moi, je dirais que j'ai la chance d'avoir voyagé avant tout ça. Donc, je garde ces points de repère. Et par exemple, il y a un an, deux ans, quand j'étais allé à Kaliningrad, donc, qui appartient à la Russie, il n'y avait pas d'Internet. Bah, écoute, moi, ça ne me pose pas de problème, quoi. Je peux très bien voyager en Russie sans Internet. Et je trouve à me loger, à me nourrir, à me déplacer. Ça ne me fait aucun problème. Mais donc, tout ça pour dire que c'est tout à fait possible maintenant, dès l'instant où je crois qu'on a vraiment envie d'aller à la rencontre des gens, de continuer à voyager de façon un tout petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. Après, je ne voudrais pas non plus stigmatiser la façon moderne de voyager. Et j'imagine que des jeunes qui sont formés, qui ont grandi dans Internet, dans les réseaux et tout, font des rencontres qui ont autant de qualité que les rencontres que moi j'ai pu faire d'une autre façon, quoi.
Et vous continuez à pratiquer la lenteur ?
Ah, par contre, oui, oui. Bah, de plus en plus, bon, vous parliez effectivement de l'écologie. Maintenant que je ne travaille pas, j'ai du temps. Donc, voilà, autant que possible, je ne prends pas l'avion, par exemple, ou les transports en commun. Voilà, bien sûr. Manger local aussi, bien sûr, éviter.
Et vous, Sylvie Labou, est-ce que vous voyagez ?
Non. J'ai un petit peu voyagé au niveau de l'Europe, mais non, moi j'ai besoin du terroir, j'ai besoin de l'enracinement, j'ai besoin d'entendre les oiseaux, de prendre des repères. Voilà, même si j'ai voyagé par l'histoire de ma famille en France, parce que je ne suis pas drômoise et qu'on s'est beaucoup déplacé. Même en caravane, mais justement, peut-être, c'est peut-être ça qui fait que j'ai besoin de cet enracinement. Et pour créer, il me faut vraiment de l'enracinement, voire de la solitude, des temps de vide.
Merci. Est-ce qu'on rappelle le rendez-vous de ce week-end pascal, donc à l'église du vieux village de La Roche-sur-Grane, donc une exposition qui s'appelle L'Inspire du voyage, un dialogue entre les sculptures de Sylvie Labou et vos photographies, Joël Perrault, avec les textes de Dominique Errante. Tout ça, c'est du 4 au 6 avril, et il y a un vernissage le 18, et vous serez là pour accueillir les gens et leur expliquer votre démarche.
Et toujours heureux de rencontrer les gens, même à La Roche-sur-Grane.
Bienvenue dans le petit village, et bienvenue pour échanger et passer un petit peu du rêve entre nous et nous rencontrer.
Merci.
Ben merci beaucoup.
Merci.
Respire. Respire. Encore l'insomnie. Sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face. Angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Saint-Fée dans Media Support, l'émission d'actualité locale, et on accueille maintenant Anaël, Saël et Julie. Merci à tous les trois d'être montés jusqu'à nous.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Julie, tu es coordinatrice de la Fabrique à Déclic. Saël et Anaël, vous êtes tous les deux en service civique et tous les trois, vous faites partie de l'équipe d'organisation du festival. On parle donc aujourd'hui d'un festival qui est organisé par l'association Osons Ici et Maintenant, pour la première fois dans la Drôme, un festival pour les jeunes de 16 à 35 ans qui s'appelle la Fabrique à Déclic. Le festival aura lieu pendant les prochaines vacances de Pâques, entre le 7 et le 9 avril. Ça se passe à Créactif et les inscriptions sont ouvertes. Alors l'idée, si j'ai bien compris, mais vous allez me corriger si je dis des bêtises, c'est de consacrer 3 jours à réfléchir, à faire des rencontres, à formuler ses envies, ses rêves et à imaginer des façons de les réaliser. 3 jours pour mieux se connaître soi-même, réaliser qu'on n'est pas seul à se questionner et à avoir parfois quelques difficultés. Voilà, on va voir comment on fait tout ça en 3 jours par le biais de quels outils collectifs. Tout ça est donc proposé à la Fabrique à Déclic. Alors peut-être qu'on peut commencer par se pencher tout d'abord sur le déroulement. Comment ça se passe, 3 jours de Fabrique à Déclic? Julie, tu veux commencer?
Allez, c'est parti. Eh ben, 3 jours, donc 7, 8, 9 avril, le mardi, mercredi, jeudi. On se retrouve tous les matins pour un petit café, l'accueil, etc. Et le premier jour, on a un gros temps de plénière, d'ouverture pour poser un peu le cadre, faire de l'interconnaissance, voilà, parler du déroulé. Tous les matins, ensuite, on enchaîne sur les parcours thématiques. C'est la seule chose pour laquelle les jeunes doivent s'inscrire à l'avance. Ils doivent choisir l'un des 4 parcours qui est proposé pour le suivre du coup les 3 matinées. Les 4 parcours, on a le parcours slam, le parcours rejoins le sport, le parcours connaissance de soi et le parcours du rêve au projet. Voilà, il faut s'inscrire sur l'un de ces parcours pour les suivre les 3 matins. Et après, tout le reste, c'est un petit peu à la carte, sur place, selon les envies du moment, selon les rencontres, selon ce qu'on a envie d'aller vivre, écouter. Donc voilà, premier après-midi, c'est des ateliers d'inspiration, 2 fois 1 heure. Donc 1 heure, un premier atelier, 1 deuxième heure, un deuxième atelier. Les ateliers d'inspiration, c'est des temps d'inspiration, de témoignages de parcours de vie, de parcours personnel, professionnel, sur différentes thématiques. On a des gens qui vont venir témoigner de leur expérience de voyage, par exemple, des seniors aussi pour parler de leur expérience de vie, des jeunes qui viennent de revenir d'une expérience sur la mémoire de l'Union européenne, donc avec d'autres pays de l'Est, qui vont venir aussi témoigner de cette expérience-là, voilà, d'échange et de et de voyage. Bref, plein de parcours, de témoignages différents sur cet atelier d'inspiration. Ça, c'est le premier jour. Et puis, le deuxième jour, on passe à plutôt de l'introspection, des ateliers d'introspection et développement de compétences, qui sont des ateliers plus longs, de 2h30. Pareil, à la carte, on choisit l'atelier qu'on veut suivre. Des ateliers pour aller creuser déjà un peu plus sur soi, pour passer, pour voilà, s'outiller, pour explorer, pour expérimenter collectivement différentes choses. Donc on a par exemple un atelier ciné-débat, un atelier philo, mais j'en dis pas plus parce que voilà, l'idée c'est aussi de découvrir sur place et de choisir selon un petit peu aussi le moment. Et le dernier jour, on a le passage à l'action avec notamment un village des assos le matin, où l'idée c'est aussi d'aller se connecter, rencontrer son territoire, les structures du territoire, les structures jeunesse, peut-être d'aller se renseigner sur certaines thématiques particulières, ou alors tout simplement voir ce qui s'y passe et s'il y a des offres de bénévolat, de stage. C'est aussi le moment pour ces structures de faire vitrine à ce moment-là. Et on finit cette belle programmation par un temps de clôture qui est pour, là pour célébrer et pour restituer tout ce qui a été vécu pendant ces 3 jours.
Tu dis qu'il ne faut pas en dire plus, mais moi j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus parce qu'il faut donner envie quand même. Il y a encore des places déjà? Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, auditrices qu'il y a encore des places, ceux qui ont entre 16 et 35 ans?
Il y a encore des places, inscrivez-vous. C'est une belle bulle, une belle parenthèse d'énergie, de reprendre de l'énergie, de rencontre aussi. Donc il y a encore une trentaine de places pour les jeunes de 16 à 35 ans. C'est possible de s'inscrire via le lien d'inscription et de choisir son parcours.
Alors, j'ai envie de rentrer un tout petit peu dans le détail des parcours. Par exemple, connaissance de soi. Est-ce que Anaël, tu pourrais nous en parler? Est-ce que tu as travaillé sur ce parcours-là ou pas spécialement, non?
Non, moi j'ai plutôt choisi le rêve au projet dans le but de découvrir cette animation. Peut-être pourquoi pas penser à un voyage ou en tout cas un projet qui me tiendrait à cœur par la suite, à la fin de ce service civique ou même dans les mois à venir. Quelque chose de plus concret pour moi.
Donc du rêve au projet, c'est l'un des 4 parcours. Il y a quelqu'un qui va guider les jeunes qui sont inscrits pour concrétiser en fait.
Oui, dans l'idée c'est ça, c'est que donc on a Théodore qui anime ce parcours. Et l'idée c'est de poser un peu déjà ses rêves déjà parce que potentiellement il y a plusieurs jeunes qui n'ont jamais pris le temps de faire ça, donc de poser, de conscientiser ses rêves personnels, professionnels, peu importe, et puis de s'outiller, de concrétiser, d'avancer en tout cas sur cette concrétisation via la rencontre par exemple de personnes qui ont concrétisé des projets via différents outils aussi partagés par l'intervenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est sur 3 jours, parce que c'est un process qui peut être quand même un peu long pour s'outiller, et puis aussi se relier à d'autres personnes qui feraient ce parcours. Potentiellement, il y a des ponts aussi qui peuvent se créer entre rêves, finalement, pour avancer la concrétisation de ces différents projets.
Donc en fait, on ne peut pas choisir un parcours différent pour les 3 jours. Chaque parcours se développe sur les 3 jours.
Tout à fait. On choisit un des parcours et on suit ce même parcours sur ces 3 jours qui avance et qui progresse sur ces 3 jours.
Sahel, tu as choisi quoi, toi?
Moi, j'ai choisi le parcours Slam avec midi 10. Et
fameux slammer de Valence.
C'est ça, exactement.
Qu'on connaît bien.
Voilà. Et pour rencontrer, pour m'améliorer, parce que ça reste un truc que je pratique et que j'aime pratiquer. Donc, pour rencontrer d'autres gens qui aiment ça aussi. Des gens qui s'initient aussi dans ce parcours. Et puis, faire des rencontres autour de ça.
On en croise pas mal ici à Radio Saint-Fé, des gens, des jeunes, pas que des jeunes d'ailleurs, parce que je précise quand même qu'au-delà de 35 ans, on n'est plus jeune pour la fabrique.
Mais on peut venir quand même.
Ah, c'est vrai, on peut venir. Ça a un sens.
Welcome, welcome. En vrai, c'est surtout plutôt à partir de 16 ans que, on donne une fourchette pour donner un ordre d'idée, mais en fait, c'est ouvert à toutes et tous de tous les horizons.
Pour en revenir au slam, il y en a pas mal des gens qui viennent slammer ici. Et du coup, c'est assez chouette si vous voulez participer d'ailleurs avec l'équipe de la Fabrique à Déclic, après venir faire quelque chose à la radio, je dis ça en passant. Voilà. Mais il paraît aussi que tu as écrit un slam pour l'ouverture du festival.
Ouais, j'ai écrit un slam pour l'ouverture du festival qui, avec aussi 3 instruments qui sont aussi des personnes de la fabrique de l'association, et dont 2 services civiques qui m'accompagnent, un au piano et un à la basse, et ensuite Paul Ménager qui est donc notre manager qui s'occupe, qui lui joue de la guitare. Il est très bien.
Ouais, ok, c'est carrément un groupe quoi.
Ouais, on a fait un petit groupe pour une musique.
Ok, et après vous allez développer ça pendant 3 jours avec les personnes qui se sont inscrites.
C'est ça.
Super. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rejoignons le sport. On va écouter Pascal dans une petite vidéo qui nous explique comment ça marche. Rejoignons le sport. Donc, c'est, si je comprends bien, une autre façon d'envisager le sport sans compète.
Tout à fait. Le sport sans grand S, finalement. Et on n'est pas obligé d'être sportif pour participer à ce parcours. Au contraire, c'est un peu se décaler de cette vision du sport avec un grand S, de la compète, du challenge. Mais voilà, de se reconnecter avec des pratiques plus ludiques, finalement.
Bonjour, je suis Pascal, animateur à l'espace jeune intercommunal à Cré. Et dans le cadre de la Fabrique à Déclic, je vous propose un parcours. Ce parcours, je l'ai appelé « Rejouons le sport ». Pourquoi ? Parce que le sport, ben, quand on parle de compétition, de performance. Et moi, j'ai envie de vous proposer un truc où on ressente sur le jeu. Le parcours, c'est jouer, jouer et jouer. Et de temps en temps, se décaler pour réfléchir à qu'est-ce que c'est le sport pour nous. Je précise bien, pas besoin d'être sportif pour venir à cet atelier, à ce parcours, juste avoir envie de s'amuser. Donc retrouverez-moi le 7, 8 et 9 avril dans la Fabrique à Déclic à Cré.
J'ai envie de parler de Anaëlle, de toi, ton rôle à Les Labos de Paulette, qui est partenaire sur le festival.
Ouais. En fait, donc, Les Labos de Paulette est un restaurant associatif et solidaire à Oust-sur-Cie. Et donc, pendant ces trois jours, il nous fournit l'entrée, enfin, le plat, entre plat et entrée pour, pendant ces trois jours, voilà, pour découvrir un petit peu l'alimentation locale.
Tu peux nous rappeler comment ça fonctionne, les labos ?
En fait, c'est basé à partir de récupération de déchets alimentaires. Donc, on récupère à Intermarché avec une association Phoenix dans le but de lutter contre l'anti-gaspi, tout simplement, le gaspillage alimentaire. Tout ça, donc, gratuitement, hein, ce sont des dons d'Intermarché. Et après, donc, voilà, c'est les cuisiniers qui créent avec leur créativité, leur inspiration, des plats bio, locaux. Il y a aussi des agriculteurs qui nous fournissent des fruits et des légumes. Donc
vous récupérez des choses qui vont être jetées, puis finalement qui peuvent tout à fait être mangées.
Tout à fait.
Et vous en faites des menus. Voilà. Et c'est aussi un fameux lieu, un café culturel en fait,
c'est
où
aussi
il se
un
passe
café...
vraiment plein
tout
de trucs.
Oui, il y a des cafés culturels les mardis soirs et les vendredis soirs. Donc on a par exemple la salsa, du théâtre, des conférences. Voilà, c'est assez varié, ça change tous les mois. Enfin, il y a des soirées récurrentes et puis des soirées nouvelles. Il y a pour tout le monde, pour tous les goûts. Soirée coinche, par exemple, également. Il y a pour tout le monde.
Non, mais c'est vrai. C'est un vrai lieu où se mélangent les gens.
C'est ça. Oui, pardon. C'est un but de mixité sociale surtout et de culture. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel titre vous avez co-organisé le festival? Du coup, comment vous avez accompagné la mise en place de ces trois jours? Tous les deux, Sahel, Anaël.
Bah, c'est surtout, on doit vraiment remercier Julie pour cette organisation quand même, parce que c'est en très 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 grande partie grâce à elle. Et après, en fait, on a des espèces de réunions, si on peut dire ça, une fois tous les mois, où en fait, elle est venue nous poser plusieurs fois des questions en 2025 sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans le programme, qui on pourrait venir voir, qui on aimerait voir en fait venir. Nous parler de son histoire, parler de son art parfois. Et ouais, je crois qu'on n'a pas le droit de dire trop de noms. Mais...
ça reste secret, la liste reste secrète.
Non, mais en tout cas, ils se sont impliqués. L'idée, c'était de les impliquer pour la programmation notamment et construire une programmation en cohérence avec aujourd'hui les jeunes de la Drôme. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les préoccupe et pouvoir apporter ces sujets-là pendant ces trois jours. En faire une programmation à leur image et par rapport à leurs besoins. Et du coup, voilà, c'est en ce sens qu'on a fait ces ateliers de co-construction et qu'on a discuté des enjeux. Par exemple, l'exemple concret, hein, le premier enjeu qui est ressorti principalement, c'est l'argent. Bon, bah voilà, on n'a pas proposé un parcours autour de l'argent, mais en tout cas, il y aura un atelier dédié sur l'argent, la gestion de l'argent, notre rapport à l'argent, peut-être aussi se décaler de ce rapport à l'argent. Enfin voilà, en tout cas, des espaces différents sur différentes thématiques qui étaient motivantes ou préoccupantes pour les jeunes drômois aujourd'hui.
Et puis nous, Service Civique, permettons en fait d'apporter des idées de jeunes, si je puis dire, pour des jeunes. Donc en fait, ça crée un festival fait par des jeunes, pour des jeunes.
Toi, t'es service civique où, Sahel ?
Je suis service civique aux Zamanins, à l'école du Colibri, où je suis un couteau suisse. Je m'occupe un peu de tout.
Ah, c'est plutôt pas mal, on s'ennuie pas comme ça.
Voilà, exactement. C'est toujours nouveau.
J'avais envie de m'attarder sur la deuxième partie du slogan, enfin de la devise du festival qui dit « Agir pour demain ». c'est-à-dire la dimension solidaire. Je voulais que vous parliez éventuellement de vos ressentis par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une volonté de proposer des trajectoires qui ne seraient pas seulement individuelles, mais qui prendraient en compte le collectif ?
Oui, bah, c'est l'essence même, je pense, de la fabrique. C'est déjà, avant tout, au-delà des parcours et des ateliers qui sont proposés, créer un espace de rencontre, finalement, pour la jeunesse de la vallée et de la vallée même étendue. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de faire venir des jeunes aussi de Valence, des jeunes de Loriol-Livron, d'Ille et autour de Cré, voilà, pour mixer vraiment à la fois des jeunes qui ne se rencontreraient pas forcément facilement, mais aussi mixer des parcours de vie. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de tous les horizons, des jeunes qui sont en service civique, mais pas que, des jeunes scolarisés, des jeunes déscolarisés, des jeunes actifs, des jeunes entrepreneurs entrepreneuses, des jeunes artistes, des jeunes à l'arrêt actuellement, des jeunes qui se posent des questions. Bref, une mixité vraiment de parcours pour créer aussi du collectif, pour créer de l'émulation, pour créer de l'échange, pour créer peut-être des envies nouvelles, pour poser, enfin voilà, planter des graines, pour créer du déclic, quel qu'il soit, personnel, professionnel, relationnel, social, peu importe.
Et est-ce qu'on parle d'engagement militant en tant que tel dans la fabrique à déclic ?
Militant, enfin, je ne sais pas à quel point, mais en tout cas d'engagement, ça c'est sûr. L'idée c'est de booster, rebooster, d'aussi proposer des outils, des solutions, de mettre en lien avec des personnes, de faire du réseau et des structures pour agir pour demain. Encore une fois, ce n'est pas un forum de l'insertion, ce n'est pas un forum de l'emploi, c'est plutôt un espace de rencontre pour les jeunes et pour qu'ils aient envie de se mettre ou se remettre le pied à l'étrier, quel que soit le projet, que ce soit un projet de voyage, que ce soit un projet de monter une asso, de monter une entreprise, que ce soit juste il y avait besoin de se rebooster pour avancer dans sa vie personnelle. Peu importe en fait, l'idée c'est de l'engagement, quelle que soit l'échelle.
D'ailleurs, j'ai lu sur le site de Osons ici et maintenant, vous relevez un constat qui est tiré des enquêtes Génération du CEREC, qui sont d'ailleurs super intéressantes ces enquêtes. Elles existent depuis la fin des années 90. Elles interrogent les jeunes 3 ans et ensuite 6 ans après leur sortie du système scolaire. Donc il y a environ 60 000 répondants sur les dernières, donc c'est hyper représentatif. Je ne connaissais pas, ça m'a bien intéressée. Et vous dites, le constat que vous relevez, c'est que 2 jeunes sur 3 pensent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi ils ou elles sont capables. Vous êtes d'accord avec ça, Anaël ou Saël ? Est-ce que tu as l'impression que la société accueille à la hauteur de tes compétences, de ce que tu pourrais faire ?
Moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la motivation du jeune, enfin de la personne. Si de base, elle a été construite sur le fait de se sentir à l'aise et d'y aller, de foncer, sans avoir peur aussi du regard des autres, je pense que ça aide beaucoup. Quand quelqu'un est plutôt timide et réservé, a plutôt besoin aussi d'approbation d'autres personnes pour s'engager un peu plus fort, j'imagine. Voilà, après, je pense que ça dépend encore une fois de la personne et du jeune.
Puis je pense en fait que pour tout ça, en fait, on a besoin de diversité et que là, malheureusement, on commence à perdre un peu de diversité et qu'en tout cas, on essaye de faire perdre cette diversité. Et donc, je pense que pour qu'on puisse être tous plus en adéquation avec la société et trouver plus sa place, il faut cette diversité et il faut en fait pouvoir rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des perspectives d'avenir différentes, parce qu'en fait, il y a presque personne qui a envie du même avenir que son voisin. Et on va entendre beaucoup de conseils des uns et des autres sur comment arriver à nos projets. Mais alors qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes histoires, on n'a pas toujours les mêmes envies. Et donc, c'est aussi ça qui est bien avec cette fabrique, c'est qu'en fait, on rencontre du monde, on rencontre des projets et on rencontre des envies. Et du coup, on a plus d'idées et plus de moyens de pouvoir les atteindre.
Et puis d'égal à égal, et ça c'est important, je me permettais de le repréciser, c'est-à-dire que voilà, le cadre est posé pour que ce soit vraiment dans la bienveillance, hyper sécurisant. Il y a des jeunes qui, pour eux, ça sera peut-être compliqué de venir avec 60 autres jeunes, d'autres jeunes qui seront à l'aise, et donc c'est aussi de créer cet espace pour ok, en fait je me permets de vivre ce moment, je me permets d'aller aussi à mon rythme, et je me permets de rencontrer des intervenants d'égal à égal, c'est-à-dire que par exemple, le deuxième jour, il y a le petit déjeuner engagé, où c'est un peu sous format de rencontre tournante avec des personnes engagées justement du territoire, que ce soit des artistes, des élus, des entrepreneurs, entrepreneuses. Et voilà, l'idée, c'est pas de mettre sur un piédestal l'intervenant, mais au contraire, de parler d'égal à égal, encore une fois, avec toutes ces personnes-là, voilà, de permettre cet espace-là, en tout cas, qui n'est pas forcément souvent permis avec les jeunes. Et donc, de faire entendre aussi sa voix, comme ça.
Vous connaissiez avant le festival La Fabrique à Déclic, Anaël et Sahel ?
Pas du tout.
C'est la première fois qu'il est sur Cré et qu'il est vraiment ici. Donc non, c'est vrai que c'est la première fois que je le vois.
Et comment vous avez rencontré Ozon ici et maintenant ?
Alors, moi, c'était à la base parce que je connaissais Paul, qui était donc un ami de mon frère. Et donc, il m'a parlé de ce service civique. Ça tombait bien parce que j'avais fini mon contrat saisonnier et je savais pas trop quoi faire. Donc, j'étais un peu ouverte à toute proposition. Et puis là, c'est bien tombé. Donc, il m'a proposé le service civique et puis je suis rentrée là-dedans, quoi. Et donc, ça s'est enchaîné, évidemment, avec la fabrique à Déclic et tout ça.
Et moi, j'avais aucune envie de rien faire cette année. J'avais besoin d'être en activité après cette année, après le bac. Et en fait, je me suis renseigné sur les services civiques et j'ai rencontré ce service civique et ce projet qui m'a plu. Et donc, j'ai voulu y adhérer et on m'a pris.
Parce qu'en fait, Ozon, ici et maintenant, je suis désolée, je ne connais pas bien comment ça fonctionne, mais vous accueillez toutes les personnes qui cherchent un service civique, ça passe par vous ?
Alors, en fait, Ozon ici maintenant, donc on est effectivement une association nationale avec une antenne là ici depuis 3 ans dans la Drôme où Paul accompagne des jeunes, effectivement en statut de service civique. Donc, c'est l'essence même d'Ozon ici maintenant, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes dans leur projet de vie, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur horizon, quelles que soient leurs envies. Et donc, de former tous les ans une promotion de 12 jeunes en statut de service civique, donc indemnisés à hauteur de plus de 600 euros par mois, et en mission terrain dans des structures du territoire selon ce qu'ils et elles ont envie de tester comme mission, comme travail en équipe, comme projet. Ils ont aussi un projet à mettre en place dans leur structure, c'est un service civique d'initiative, ce qu'on appelle. Et donc en parallèle de ça, ce service civique, il permet aussi de créer cette promotion, ce collectif de jeunes que Paul accompagne un lundi sur deux via des ateliers, des ateliers de connaissance de soi, sur le projet de vie, sur les motivations, des chantiers jeunes et plein d'autres choses. Et parmi aussi des temps forts vécus par ces jeunes, il y a la Fabrique à Déclic et d'autres temps forts. Ça fait partie intégrante de leur service civique pendant 9 mois. Il y a plein de petites choses portées par Paul et puis dans leur structure de mission.
Alors, on va donner quelques infos pratiques quand même. On rappelle que le festival, c'est du 7 au 9, c'est ça, avril, à Créactif. Donc, entre le ciné et l'espace jeune, si vous voyez vers le parc du Bosquet, pas loin de la Drôme, il faut s'inscrire sur le site de la Fabrique à Déclic, on trouve facilement.
Alors, sur le site d'Ozon aussi maintenant, on trouve. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux. Il y a le lien d'inscription. C'est un lien Hello Asso. C'est complètement gratuit, la Fabrique à Déclic sur ces 3 jours et les repas sont compris. Donc, vraiment, tout est gratuit. Mais on a besoin que les jeunes s'inscrivent et choisissent un parcours pour savoir un peu combien il y a de jeunes dans chaque parcours et savoir qui vient à la Fabrique. Et c'est à rendez-vous à 8h30 les matins. C'est donc juste après le week-end de Pâques, le jour férié, le 7, 8, 9, il faut pouvoir s'engager par contre les 3 jours. L'idée, c'est de vivre l'événement sur les 3 jours. C'est pas comme un festival où on vient à un concert ou à un moment. L'idée, c'est quand même de pouvoir s'engager les 3 jours. Évidemment, si à un moment donné, dès le premier jour, ça paraît compliqué pour le ou la jeune, c'est peut-être trop d'un coup. On va pas retenir de force, forcément, le participant et la participante. Mais il faut venir avec l'idée que c'est un engagement de 3 jours.
L'inscription, elle est super rapide et 100% gratuite.
Ouais, on confirme.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'être venu en parler sur Radio Sinfé.
Un coup d'œil sur la vallée, un clin d'œil à l'actualité.
Chaque jeudi midi.
Midi à ta porte, midi à
saisie sur le vif.
Midi.
Ou mijoter à petit feu.
Ta porte.
Alors porte.
Midi.
C'est
à sa
nos portes.
Ça parle de tout.
Ça appétit.
Ça parle de vous.
C'est midi à sa porte.
Sur Radio Saint-Ferréol.